9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Et si nous faisions un petit saut de 100 ans en arrière, 1924, c'est l'époque de la victoire du cartel des gauches, du premier gouvernement Herriot. Anatole France vient de recevoir des funérailles nationales. C'est également 1924, l'année de la mort de Lénine. On a eu l'occasion d'en parler. Pour les surréalistes, c'est l'année de l'affirmation, enfin c'est un an après. Pour les surréalistes, c'est l'année de l'affirmation de leur mouvement, après 5 ans de tâtonnement, enfin les voilà au grand jour. Alors souvent on associe le surréalisme au dadaïsme, c'est le mouvement qui le précède et auquel un certain nombre de ses membres ont participé. Il y a une solution de continuité entre les deux expériences. Dada est né en Allemagne et en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, c'est totalement lié à tout ce qui s'est passé. Avec cette ironie dévastatrice du dadaïsme, sa mise en cause de la création, tout ça découle évidemment de l'effet de vérité qu'a provoqué la Première Guerre mondiale. Les sociétés européennes, malgré les millions de morts sur le front, ont poursuivi leurs activités habituelles. Elles prétendent maintenir l'humanisme dont elles se réclament. Les écrivains les plus installés se sont montrés de fervents patriotes et ils ont même été partisans du conflit. Et le dadaïsme, par sa dérision, par sa pratique du scandale, veut hâter l'implosion de ce qu'il considère en quelque sorte comme un décalage, l'implosion de cette vision-là. J'insiste sur le fait, dit André Breton, que le surréalisme ne peut historiquement être compris qu'en fonction de la guerre. Je veux dire de 1919 à 1938, en fonction à la fois de celle dont il part et de celle à laquelle il retourne. Oui, ça c'est toute l'ironie de cette situation. Il a 28 ans en 24, Breton. Voyez à peu près à quoi il ressemble, ce visage décidé, hein, menton en avant, le coin de la lèvre inférieure légèrement affaissé à cause de la pipe, bien sûr, cette espèce de chevelure de crinière de lion tirée en arrière. Il est le chef de file de tout un petit groupe de jeunes écrivains. Il y a là Philippe Soupeau, Louis Aragon, Paul Éluard, Benjamin Perret, Robert Desnos, René Crevel. Et l'on se pose des questions et on s'interroge. Où se situe la frontière entre la vie et le poème, demande Gérard de Cortanze. Après Bergson, dit-il, qui déjà avait attiré l'attention sur les diverses manifestations du psychisme, la théorie freudienne commence à circuler. On interroge l'inconscient. Soupeau et Breton ont une intuition. La réponse, c'est l'écriture automatique qui va bien plus loin qu'une technique littéraire ou qu'une méthode thérapeutique, qui va la donner. En libérant l'activité psychique, elle conduit à un reclassement général des valeurs lyriques. C'est un peu abstrait, hein, je vous le concède. Soupeau et Breton, poursuit Gérard de Cortanze, s'enferment toute une nuit, notant fébrilement les phrases sortant à jet continu de leur inconscient. Un livre dangereux naît de cette expérience, Les champs magnétiques, moment à l'aube de ce siècle où tourne l'histoire de l'écriture. Et à l'écriture automatique s'ajoutent les dessins automatiques, les récits de rêves, les jeux, les paroles ou écrits obtenus en sommeil hypnotique. Bon. Tout ça, c'est ce que décrira Aragon dans « Une vague de rêves ». Alors, le groupe a une permanence, rue de Grenelle, à Paris, un bureau de recherche surréaliste qui va tenter de réaliser le vœu de Lautréamont. Que voulait Lautréamont ? Mettre la poésie à la portée de tout le monde. Que la poésie soit faite pour tous. Et la permanence du groupe est ouverte à tous les anonymes qui ont à livrer des secrets, une révolte, des rêves. Ce sont des années, il faut bien le comprendre, de grandes perturbations très ambiguës où le surréalisme, qui s'est déjà largement trouvé, hésite encore un peu sur lui-même. Et ce qui lui manque, c'est un écrit fondateur qui façonne les principes de ce nouveau mouvement. Le livre en question, évidemment, il va paraître aux éditions du Sagittaire à l'automne 1924 et il s'appelle « Manifeste du surréalisme », signé André Breton, bien sûr.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il était né dans l'Orne, à Tingebray, André Breton, le 19 février 1896, avec des ancêtres bretons et lorrains. Il a passé sa petite enfance à Saint-Brieuc, auprès de son grand-père maternel. Il était très proche de ce grand-père maternel qui lui a donné le goût des plantes, des insectes. Et puis, il est venu s'installer en banlieue parisienne en 1900 avec ses parents, à Pantin. Des années qui, pour lui, ont été moroses. Hein. Sa mère était très autoritaire, les routines scolaires lui pesaient. Et c'est de cette époque que datent quelques-unes de ses aversions très affirmées. « Qu'avant tout, l'idée de famille rentre sous terre », écrit-il dans « L'amour fou ». Vers l'âge de 15 ans, il y a dans cette grisaille d'une existence terrible, il y a la grande lumière, celle de la poésie. Et ça, cette révélation, elle arrive grâce à Mallarmé. Et cette passion de la poésie, elle va prendre cet adolescent, l'absorber tout entier. Il lit Baudelaire, les symbolistes, on le voit au Vieux Colombier, hein, aux séances poétiques. Il va découvrir Huysmans, ça c'est le grand enthousiasme de sa jeunesse. Et lui-même se met donc à écrire des poèmes, forcément. Et ce qui frappe chez lui, c'est sa rigueur, son exigence, la fermeté de ce jugement qu'il sait constamment approfondir, nuancer. Il n'y a pas de facilité chez Breton. L'expression est tenue, si vous voulez. Breton a un goût prononcé pour la peinture. Il va fréquenter les musées, les galeries. Il a une grande fascination pour le visionnaire, Gustave Moreau, bien sûr, qui va marquer à jamais notamment sa façon de regarder les femmes. Il devient vite un collectionneur de toutes ses œuvres. Un de ses tout premiers achats, Opus, c'est une statue de la fertilité originaire de l'île de Pâques. Vous voyez, l'éclectisme aussi qui marque cet esprit extraordinaire. Les plus profondes affinités existent entre la pensée dite primitive et la pensée surréaliste, dira-t-il, qu'elles visent l'une et l'autre à supprimer l'hégémonie du conscient, du quotidien, pour se porter à la conquête de l'émotion révélatrice. Vous voyez, en fait, tout ça serait une forme de fuite, de refus d'un quotidien jugé gris et lourd. Alors, il y a plusieurs influences. Il y a tous ces grands intellectuels. Il faut imaginer le bouillonnement de pensée de l'époque. Vous avez Valéry, la soirée avec Monsieur Test. Vous avez Gide, avec les caves du Vatican. Vous savez, l'acte gratuit, le crime sans aucune explication. Et puis, il y a l'influence, bien sûr, d'Apollinaire et celle de Jacques Vacher. Et tout ça se juxtapose et se remplace, si je puis dire. On peut dire de Breton qui n'a pas pardonné à Valéry le néoclassicisme de son ouvrage La Jeune Parc. Il n'a pas pardonné à Apollinaire le chauvinisme des calligrammes. Il est constamment à la recherche d'autre chose. Il y a chez Breton un style un peu inquisitorial. On voit ça dans les pamphlets qu'il brosse de Barrès ou d'Anatole France, bien entendu. Et avant même l'apparition du fameux manifeste, Maurice Martin Dugard fait le portrait de Breton en première page des Nouvelles littéraires. C'est le 11 octobre 1924 et voici ce que dit Maurice Martin Dugard. Pas confondre avec Roger. Hein. « Aujourd'hui, il a vraiment le port d'un inquisiteur. Que de tragique et de lenteur dans les regards et dans les gestes. Et c'est un mage. Peut-être bien un peu une image d'Épinal avec sur ses fidèles l'autorité magnétique d'un Oscar Wilde. Des dons évidents d'écrivain, il met l'image et l'orthographe et la ponctuation où il faut, une culture abondante et du tourment métaphysique.
Parce que vous m'avez fait la cour dans le Connecticut.
Un extrait du premier acte des Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc, que c'était Julie Fuchs qu'accompagnait l'Orchestre National de Lille sous la direction de Samuel Jean. C'est dans ces Mamelles de Tirésias, précisait Jérémy Bigori qui a préparé l'émission de ce matin, c'est dans cette œuvre qu'apparaît pour la première fois le mot surréalisme.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, une étape décisive va être franchie en 24 avec la publication des Pas perdus. C'est un recueil d'articles, fruit de toute une quête qui a duré 5 années. Et puis donc, à l'automne 1924, ce manifeste du surréalisme, suivi des poèmes en prose de Poisson soluble. En décembre, premier numéro de la revue La Révolution surréaliste, avec une couverture qui déclare « Il faut aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l'homme ». Rien que ça. Ces droits, le manifeste les affirme. C'est par l'imagination, c'est par le rêve que la liberté se nourrit, s'exalte. Il y a beaucoup de légendes et d'images plus ou moins déformées qui circulent autour de ce surréalisme, de ce groupe de la rue Blomet, dont Breton sera l'animateur plusieurs décennies durant. Le caractère global de l'entreprise surréalisme explique le charme qu'elle exerce. Le mot surréaliste est connu depuis qu'en 17, Apollinaire a qualifié ses Mamelles de Tirésias de drame surréaliste. Voilà l'apparition du mot. Toute l'existence humaine se trouve en effet concerné par l'exigence surréaliste, nous dit Jérémy Bigori, celle-ci repose sur le désir de repassionner la vie. Le surréalisme invente un mode de communication moderne en ayant recours à des tracts et à des revues pour diffuser sa pensée, ses positions. Il faut se replacer dans le contexte compassé des années 1920 pour tenter de mesurer l'air ainsi brusquement apporté sur la scène des lettres françaises. Oui, c'est de l'oxygène en fait. C'est de l'oxygène peut-être un peu... C'est peut-être un peu suroxygéné, ce surréalisme. Alors, évidemment, les adversaires nomment le pape Breton le pape du surréalisme. Il ne passe pas inaperçu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Très vite, Breton conçoit que l'état d'esprit surréaliste pourrait être dévoyé. On pourrait s'en servir à des fins financières ou symboliques. Et Breton va se fixer le rôle de défenseur de la pureté originelle de l'aventure. Vous voyez toujours cette idée hein, d'une sorte de... Il faut que quelqu'un défende la pureté de l'inspiration du mouvement. Jean Cassou a souligné le fanatisme de Breton, nécessaire pour rendre à la poésie une allure exclusive et agressive que l'envahissement du rationalisme aurait pu lui faire perdre. C'est ce qui se passe là, c'est un combat de la pensée en fait. Pensée contre pensée, inspiration contre ce que Breton considérait en quelque sorte comme une absence d'inspiration. Le manifeste du surréalisme va s'organiser en 4 parties. D'abord, on constate l'inadéquation de la vie à l'homme. Le postulat, c'est qu'une réappropriation est possible puisque la liberté, malgré tout, est donnée à l'être humain. Liberté qui se confond avec l'imagination elle-même. L'imagination, c'est ce qui permet d'élargir les bornes du réel. Alors évidemment, ça peut aller jusqu'à la folie. Le rêve est le moyen de conduire tantôt à la folie, tantôt au merveilleux, mais en tout cas de développer, de dilater les frontières du réel. Le passage au roman est condamné parce que ce genre romanesque s'attache à reproduire le réel. Et donc, en faisant ça, il efface l'essentiel, c'est-à-dire l'opacité des hasards, les failles soudaines, les éclairs qui déchirent le temps et qui le condensent. Voici les premières lignes, tout simplement, du manifeste du surréalisme. J'allais dire, accrochez-vous, voilà comment ça commence. « Tant va la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire, la vie réelle s'entend, qu'à la fin cette croyance se perd. L'homme, ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, fait avec peine le tour des objets dont il a été amené à faire usage et que lui a livré sa nonchalance ou son effort presque toujours, car il a consenti à travailler, tout au moins il n'a pas répugné à jouer sa chance, ce qu'il appelle sa chance. une grande modestie est à présent son partage. Il sait quelle femme il a eue, dans quelles aventures risibles il a trempé. Sa richesse ou sa pauvreté ne lui est de rien. Il reste à cet égard l'enfant qui vient de naître et, quant à l'approbation de sa conscience morale, j'admets qu'il s'en passe aisément. L'ensemble Lautenkompanie Berlin, sous la direction de Wolfgang Kachner, interprétait cette air à faire fuir des pièces froides d'un Erik Satie que le surréalisme ne pouvait pas tellement surprendre.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il est mort en 25, Erik Satie, juste après le manifeste. Alors, nous dit Gérard de Cortanze, le mouvement a désormais un nom, un chef incontesté, André Breton, un manifeste, une revue où diffuser sa pensée. Il peut donc s'élargir. Pierre Naville, André Masson, Antonin Artaud sont des recrues de poids. Éluard, qui avait un temps disparu, il était parti faire un tour du monde, réapparaît. Son retour coïncide avec ce que Marc Polizzotti appelle l'entrée du surréalisme sur la scène publique. Et oui, c'est une entrée assez fracassante. Vous avez bien compris que le surréalisme propose un projet qui vise à changer l'existence sans faire appel à la moindre transcendance. Après la définition, Breton énumère les noms de ceux qui ont fait acte de surréalisme absolu. Il y a donc Aragon, Soupault, Éluard, Desnos, Roger Vitrac, Benjamin Perret, puis, sous forme d'aphorisme et sans aucune prétention à l'exhaustivité, les noms de ceux qui, dans le passé, ont été surréalistes en quelque chose. Alors, Swift est surréaliste dans la méchanceté, Sade est surréaliste dans le sadisme, Chateaubriand est surréaliste dans l'exotisme, Constant est surréaliste en politique, Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête, dit Breton, etc., etc., bien entendu. Les références de Breton, bien sûr, vont jouer un rôle absolument déterminant dans la définition de tout ça, si tant est d'ailleurs qu'on puisse parler de définition. Dans le premier manifeste, quand Breton énumère les précurseurs du surréalisme, il ajoute, les précurseurs dans l'écriture, il ajoute en note qu'il pourrait en dire autant de quelques philosophes et de quelques peintres. Et là, il va mentionner des gens très très différents. Je vous ai parlé de Moreau tout à l'heure, évidemment, mais aussi le peintre de la Renaissance ou Schello, ou bien Seurat, Matisse, Derain, Picasso, de beaucoup le plus pur, Picasso, dit-il, Ébraque et Duchamp, Picabia, Quirico, Clé, Maneret. Le surréalisme a beau être un mouvement de rupture, il veut bien accepter un certain nombre d'ancêtres. La liste la plus complète, elle est dans l'anthologie de l'humour noir qui paraîtra en 1940. Comme l'observe Jacques de Lacretelle, le poète symboliste entend, le surréaliste voit. Le premier cherche l'écho, subit l'influence du motif musical. L'autre travaille sur des souvenirs presque toujours visuels. Cela est si vrai que l'école symboliste eut de grandes affinités avec les musiciens de son époque, tandis que le surréalisme est tout entier du côté des peintres.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et André Breton en rage de n'être pas pris au sérieux, il le considérait comme un artiste. Ce mot qui ne signifie rien, dit-il. On sait que la visite qu'il a faite à Freud à Vienne en 21 s'est soldée par un fiasco, puisque Freud a regardé tout ça avec pas mal de condescendance. Il a carrément congédié le jeune Français. Et Breton aura sa vengeance en décrivant le père de la psychanalyste comme, je cite, « un petit vieillard sans allure qui reçoit dans son pauvre cabinet de médecin de quartier ». Mais toujours le sens de la nuance. Après la publication du manifeste, il s'agira pour le surréalisme d'entrer dans l'âge de raison. Le premier mouvement des surréalistes a été en quelque sorte de se désengager. Et bien, le second, c'est au contraire l'engagement. C'est non seulement l'entrée sur la vie publique dont parlait tout à l'heure Gérard de Cortance, mais là, c'est l'entrée dans la politique. Et c'est une entrée qui est très marquée à gauche, bien entendu. Transformer la vie, a dit Marx. Changer la vie, disait Rimbaud. Ces deux mots d'ordre n'en formaient pour nous qu'un, affirme Breton, qui met un terme aux blagues potaches de Dada. Vous voyez la différence d'ailleurs entre les deux mouvements de ce point de vue. Le temps des blagueurs, je ne sais pas comment dire, des sales gosses à la Sarbacane, ce temps-là est révolu. Il faut s'impliquer maintenant dans la politique et ce ne sera pas sans conséquence sur la cohésion des membres, puisqu'il va y avoir des divisions, forcément. Breton va faire carrément le choix de Trotsky, qu'il rencontrera d'ailleurs au Mexique, tandis que Picasso et Éluard Aragon seront plutôt fidèles à la ligne de Moscou, à la ligne stalinienne. Quant à Antonin Artaud, il voit dans cette allégeance au communisme la fin du surréalisme. Alors, n'avions pas un temps infini pour évoquer tout cela. S'il fallait, à la fin de cette émission un peu rapide, s'il fallait résumer la quête impossible du surréalisme, il suffirait peut-être de citer une phrase d'André Breton. Elle ne se trouve pas dans le premier manifeste. C'est cette phrase que Breton a choisi de faire graver sur sa tombe. La tombe d'André Breton est au cimetière des Batignolles. Et la phrase en question résume peut-être tout, et elle montre aussi l'aporie de la quête. « Je cherche l'or du temps ».
Vous écoutez Radio Classique.
Le centenaire du surréalisme est largement évoqué donc dans le numéro d'Historia qui vient de sortir, qui est dans les kiosques et dont la couverture est consacrée avec un portrait de Turing fait par l'intelligence artificielle, consacré à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas jusqu'où l'intelligence artificielle est capable de se montrer surréaliste. À mon avis, ça doit être possible.
Je ne sais pas en tous les cas, mais lisez ce numéro d'Historia passionnant. Alors, j'ai relevé, vous parliez des phrases des surréalistes. Oui. Vous connaissez la journée que proposait ce cher Eric Satie, le concernant.
Oui, justement, oui.
Mon lever à 7h18, inspiré de 10h23 à 11h47, je déjeune à 12h11, quitte la table à 12h14, occupations diverses, escrime, réflexion, immobilité, visite, parce que j'aime bien, c'est mon coucher a lieu régulièrement à 22h37. Oui. Hebdomadairement, réveil en sursaut à 3h19, le mardi, surtout. Et alors, il disait, je fais bouillir mon vin, que je bois froid avec du jus de fuchsia, je respire avec soin, peu à la fois, je danse très rarement, en marchant, je me tiens par les côtes et regarde fixement derrière moi. C'est extraordinaire.
De beaux principes de vie.
Tout à fait. Mais écoutez, je m'y tiens d'ailleurs, regardez le résultat, à 97 ans.
Éblouissant.
Oui, éblouissant. Mon cher Franck, c'est cet après-midi, le rendez-vous de Franck Ferrand. Où est-ce que j'ai mis ce rendez-vous? J'ai tellement de choses à annoncer pour Franck Ferrand. Je vais le retrouver tout de suite. Voilà, Franck Ferrand, cet après-midi, à 14h. Alors là, vous nous parlez de quelqu'un, on ne peut plus important dans la société, à propos de Pasteur. 14h cet après-midi.
Eh bien écoutez, voilà un beau programme.
Voilà, et à demain.